Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être sur Radio Judaïka Strasbourg pour un nouveau numéro talk show. Ce matin, on va parler économie avec Marc Touati, économiste et président de l'ACDFI. Bonjour Marc Touati.
Bonjour Jean, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, on va parler tout d'abord de votre actualité récente, puisque vous avez écrit un nouvel ouvrage qui s'appelle Reset 2, Reset 2, comment vous dites, vous ?
Oui, Reset 2, très bien. On va parler alors, français. Le début, le Reset, tout le monde connaît, mais 2, on peut le dire en français. Et puis après, il y a la suite qui est bienvenue dans le monde d'après, quoi.
D'accord, c'est le sous-titre. Alors, vous avez écrit Reset 2 parce qu'il y avait un Reset 1. C'était au moment de la pandémie, en tout cas sortir de la pandémie, c'est-à-dire qu'en 2 ans, tout a changé ou rien n'a changé.
En fait, c'est un peu ça le problème, c'est que bon, quand est arrivée la pandémie, donc j'avais écrit Reset, donc bienvenue, quel nouveau monde pour demain, en disant voilà, bon ben on a appuyé sur le bouton Reset, alors effectivement des fois le monde marche mal, donc on appuie comme sur un appareil sur Reset, et puis après ça redémarre. Mmh. Puis là malheureusement on a appuyé effectivement avec la pandémie sur Reset, mais c'est pire qu'avant. C'est-à-dire qu'effectivement on a créé beaucoup d'inflation, on a créé des nouvelles bulles, des nouveaux dérapages, des dettes publiques, etc. Et donc d'où cette idée de Reset 2 en disant ben, il faut faire un deuxième Reset pour pouvoir redémarrer, on l'espère, sur des bases plus saines. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le danger, c'est qu'on a une situation aujourd'hui où on n'a pas tiré les leçons des erreurs du passé, et j'ai envie de dire c'est pire qu'avant, dans la mesure où pour sortir de la pandémie, on a fait exploser la dette publique, on a généré de l'inflation. Alors bien sûr, il y a eu la guerre en Ukraine ensuite, ça c'est un peu indépendant de notre volonté, quoique on a également ces problèmes énergétiques aujourd'hui avec l'arrêt du nucléaire en Allemagne, la réduction également du nucléaire en France, et donc cette révolution aujourd'hui sur les nouvelles technologies de l'énergie qui arrivent, et on n'est pas prêt. Donc c'est ça le gros problème, c'est qu'on a utilisé toutes nos cartouches pendant la pandémie, et maintenant qu'on a besoin justement de soutenir l'activité, ben, on n'y arrive pas, et on est bloqué dans cette inflation. Alors, entre-temps, je dirais depuis que le livre est sorti, bon, il est sorti en septembre, donc c'est très, très récent. Alors, d'ailleurs, je le souligne que c'est ce que j'appelle un livre vivant, c'est-à-dire en fait, tout ce qui est dans le livre, parce que j'ai mis des graphiques, eh bien, tous ces graphiques seront mis à jour pendant 2 ans. Mmh. Donc, il y a une application, on clique sur les graphiques et puis ils sont mis à jour pendant 2 ans, ce qui permet de suivre l'actualité. Et même, bien sûr, certains chapitres également seront mis à jour parce que, justement, le drame, c'est que depuis quelques semaines, on se rend compte que les dirigeants qui sont aux commandes de la planète ne sont pas à la hauteur de la situation. Ah. Hein. On a entendu dernièrement la présidente de la Banque Centrale Européenne nous dire l'inflation vient de nulle part. Vous voyez, donc, c'est ça qui est complètement fou. Et ce qui fait peur un petit peu, c'est que les dirigeants du monde aujourd'hui ne se rendent pas compte de la gravité de la situation. Donc voilà, j'espère qu'ils vont lire Reset 2 et que ça va nous permettre de ressortir par le haut de la crise.
Marc Touati, alors on parle beaucoup d'inflation, de récession, etc. Mais est-ce qu'on peut, en une phrase ou en deux, résumer ce que c'est l'inflation pour qu'on sache vraiment de quoi on parle ?
En fait, c'est très simple. L'inflation, c'est l'augmentation des prix des biens à la et services à la consommation. C'est-à-dire, en fait, nous, on consomme, si vous voulez, et donc les services et les biens qu'on consomme, leur prix évolue. Et donc, si vous voulez, c'est l'une des règles de base de l'économie, hein, que d'ailleurs, j'avais annoncé donc dès 2021. J'avais dit, attention, l'inflation va arriver. On me dit, mais non, il n'y aura pas d'inflation. Tout va bien dans le meilleur des mondes. En fait, c'est très simple. Hein. Tous les biens et les services ont des prix de base, hein, le coût de production, plus un peu de profit pour les entreprises. Et puis après, il y a l'offre et la demande. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'avec la pandémie, alors on a fait la dette publique, la planche à billets, etc. Donc au début, on comprend, hein, en 2020, effectivement, c'était la catastrophe. Puis le problème, c'est qu'on a continué après, notamment en 2021, quand ça commençait à aller mieux. Et là, on a continué donc d'augmenter la dette publique, d'injecter des liquidités, ce qu'on appelle cette planche à billets, c'est-à-dire que les banques centrales achetaient cette dette publique. Et donc, on a créé trop de demandes par rapport à l'offre. C'est-à-dire l'offre, c'est la production, et alors qu'elle ne suivait pas, bien entendu. Et là, on a alimenté artificiellement la demande. Donc la demande est devenue supérieure à l'offre, donc à la production. Donc ça, c'est la règle de base de l'économie. Si la demande est supérieure à l'offre, ben, les prix augmentent. C'est ce qui s'est produit. Après, évidemment, arrive cette guerre en Ukraine. Et là aussi, bon, le boycott, etc. Sauf qu'on a oublié que la Russie était devenue incontournable sur les marchés des matières premières. Et donc, mécaniquement, ben, toutes les matières premières ont flambé. Alors, ça va mieux aujourd'hui. Mais néanmoins, c'est vrai qu'on a une inflation qui est extrêmement forte. Donc l'inflation, c'est simple. Hein, c'est ce que nous payons au quotidien. Et donc, si les prix augmentent trop par rapport rapport à nos revenus, ça veut dire qu'on perd du pouvoir d'achat, et donc évidemment qu'on n'a pas de quoi de consommer comme d'habitude en quelque sorte. Mais, entre guillemets, la bonne nouvelle, c'est que quand les prix vont trop loin, quand ils montent trop haut, à ce moment-là, c'est l'effet inverse, ouais. Ça casse la demande, et donc la demande va baisser, c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui, et donc l'inflation repartira à la baisse également courant 2023. Donc, sauf si, bien sûr, il y a encore des guerres, etc., des tensions sur les matières premières, mais on espère que ça va éviter tout ça. Tout ça pour dire que l'inflation, oui, va baisser, mais attention, ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. C'est-à-dire que l'inflation va reculer, donc les prix vont augmenter un peu moins vite, mais les prix ne vont pas forcément baisser, à part dans certains secteurs d'activité où là, vraiment, ça a été complètement absurde. Donc, c'est un petit peu ça le problème, justement, de l'après-Covid, c'est qu'on a perdu le sens des valeurs. Dans mon livre, justement, j'ai un livre, un chapitre sur l'échelle des valeurs est tombée, parce qu'on se rend plus compte de l'échelle des valeurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, on pouvait continuer comme ça d'augmenter la dette publique n'importe comment, qu'il n'y aurait pas de sanctions, que le taux d'intérêt était proche de zéro. Ben non, ça c'est pas possible. Il faut bien qu'un jour ça s'arrête. C'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Donc maintenant, c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on revient vers un monde entre guillemets plus normal et avec des meilleures connexions par rapport à la réalité économique. Ce qui était anormal, c'était ce qu'il y avait pendant effectivement ce coronavirus. Maintenant, il faut s'en sortir, mais c'est vrai que ça a laissé des traces, donc ça prend un petit peu de temps.
Marc Touati, dans toutes vos interventions, l'une des premières phrases que vous dites, c'est « il faut dire la vérité aux Français ». Vous pensez vraiment qu'on peut tout dire aux Français ?
Oh, moi, je pense que oui, hein, si vous voulez. Enfin, encore une fois, il faut l'expliquer. C'est-à-dire que globalement, c'est pour ça que dans toutes mes interventions, bon, là, à la radio, je peux pas, mais sur ma chaîne YouTube ou ailleurs, et donc dans le livre également, je mets des graphiques.
Voilà, oui, c'est beaucoup, compliqué, beaucoup.
Mais on peut expliquer quand même, parce qu'on visualise. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est pas qu'un discours d'économiste ou qui que ce soit, c'est une réalité. Donc, quand on voit que c'est une réalité, on voit les cours, on voit les graphiques, donc, qui évoluent, je dirais, voilà, l'inflation, l'activité économique. Donc là, effectivement, on comprend. Donc, moi, je pense qu'il faut se dire la vérité, parce que le problème, c'est que la vérité elle finit toujours par ressortir. Donc nous, notamment en France, depuis des années, hein, c'est pas que dernièrement, ça fait des années que ça dure, on fait du déni de réalité. On dit non mais tout va bien dans le meilleur des mondes, tout est sous contrôle, vous inquiétez pas, on a qu'à mettre un peu de dette publique et tout va bien se passer, puis on va un petit peu augmenter les impôts mais c'est pas grave, et ainsi de suite. Et donc le problème c'est que, rappelez-vous, il y a encore quelques mois, hein, je veux dire, les dirigeants français ou de l'Europe, hein, de la Banque Centrale Européenne, disaient non mais l'inflation, c'est pas un problème, ça va pas durer, voilà, ça va durer 2-3 mois, après ça va tomber. Vous voyez, quel manque de discernement. Vous voyez, moi, je suis pas devin. C'est-à-dire, si j'ai vu cette inflation arriver, eux aussi, ils le voyaient. Mais ils n'ont pas voulu le dire, justement, pour pas effrayer. Et surtout, le problème, c'est qu'ils n'ont pas pris les mesures adéquates. Parce que le problème, c'est que quand vous dites, justement, aux Français, bah, vous inquiétez pas, il y aura pas d'inflation. Donc, ben voilà, ils s'inquiètent pas. Sauf que quand l'inflation arrive vraiment, ben là, ils comprennent pas. Donc voilà, donc on fait le bouclier tarifaire, on fait des aides à droite à gauche. Sauf que ça coûte extrêmement cher. Donc, c'est parce que ça fait augmenter encore une fois la dette publique. Et donc, à partir de là, cette dette, faut la payer. Donc, qui va la payer à la fin? Ben, c'est nous. C'est-à-dire, c'est les contribuables, hein, au travers d'une hausse des impôts, ou d'une hausse, voilà, de l'inflation, ou d'une hausse des taux d'intérêt. Donc, c'est ça qui est dangereux. C'est que, en fait, on gagne du temps. Et c'est ce qu'on demande à nos dirigeants, justement, c'est de dire la vérité, parce qu'eux, ils gagnent du temps, c'est tout, voilà, une sorte de fuite en avant, en disant, bon, voilà, nous, on veut la paix sociale, on veut pas de vagues, etc. Et de toute façon, les drames sociaux, on les a, quoi qu'il arrive, vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est ce qui fait que, qu'on dise la vérité ou pas, finalement, on a effectivement ces problèmes. Donc, moi, je pense qu'il faut dire la vérité, il faut l'expliquer. C'est vrai qu'en France, on a un problème de culture économique qui est très faible, on a une culture de lutte des classes, mais pas une culture de économique développer. Donc voilà, on est là pour ça, pour développer cette culture économique. Et encore une fois, l'économie, c'est relativement simple si c'est bien expliqué. Et si on explique effectivement, à ce moment-là, on peut prendre des bonnes...
Alors, Marc Touati, vous le dites depuis des années, l'inflation va arriver. Quelles ont été les erreurs des dirigeants économiques ou politiques pour arriver là? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Bah, comme je l'évoquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'en fait, par facilité, on va dire, ou pour faire plaisir aux marchés financiers, ou pour faire plaisir au gouvernement, bien, les banques centrales ont continué leur planche à billets en 2021. Alors, en 2020, effectivement, on croyait que c'était la fin du monde. Donc là, je comprends qu'on fasse tout. Mais le problème, c'est qu'on a continué en 2021. Et donc, normalement, vous voyez, une politique monétaire, elle doit justement anticiper. Donc là, on n'a pas du tout anticipé. On voyait l'inflation arriver. Et donc, bah, on se dit, c'est pas grave. Donc les États, notamment français, ont continué d'augmenter leur dette dette publique, et les banques centrales ont continué d'acheter cette dette publique, donc d'actionner ce qu'on appelle cette planche à billets, cette fameuse planche à billets, et ça on sait très bien, c'est la règle de base de l'économie encore une fois, c'est que quand on génère une demande trop forte par rapport à l'offre, ça génère une hausse de l'inflation. Donc c'est exactement ce qui s'est produit, donc comme Madame Lagarde dit dernièrement, donc la présidente de la BCE dit « Ah ben l'inflation elle vient de nulle part », oui, c'est assez incroyable, vous voyez ce que je veux dire, donc moi je suis intervenu à plusieurs reprises auprès de Bruno Le Maire pour lui dire « Faites attention, vous allez trop loin sur la dette publique », il m'a répondu « Non, vous inquiétez pas, c'est la BCE qui finance ». Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué, donc voilà, on avait cette fuite en avant, et le problème c'est que normalement, aujourd'hui qu'on a une récession qui est en train d'arriver, il faudrait justement relancer la machine, c'est-à-dire baisser les taux d'intérêt, voire relancer l'arme budgétaire, sauf que comme on a déjà tout fait, on en a trop fait justement en 2021, on peut plus le faire aujourd'hui, c'est même l'inverse. La Banque Centrale Européenne augmente les taux d'intérêt, donc à contre-courant, et c'est ça qui évidemment est dramatique, parce qu'elle aggrave la récession. Donc j'ai envie de dire, elle s'est malheureusement complètement plantée, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire qu'elle a aggravé l'inflation, et maintenant elle aggrave la récession. C'est quand même dommage.
Là, aujourd'hui, on est en récession ou pas ?
Ah oui, en fait, si vous voulez, il y a une définition technique de la récession, ça veut dire deux trimestres consécutifs de baisse de l'activité, ce qu'on appelle le fameux PIB, donc la richesse qu'on crée dans un pays. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, c'est vrai, techniquement. Alors, ça a été le cas aux États-Unis. Par contre, c'est en train d'arriver chez nous pour le quatrième trimestre, donc 2022 et premier trimestre 2023. Donc oui, nous sommes malheureusement en récession. Et le plus problématique, c'est ce qu'on appelle en économie une stagflation. Ça veut dire on a une récession et une inflation élevée. On est les deux à la fois. Donc c'est ça qui est effectivement assez douloureux. Mais donc malheureusement, on le sait, quand on a une phase de forte inflation, on s'en sort toujours avec une récession. Donc voilà, c'est encore une fois une vérité qui n'est pas facile à entendre, mais c'est une réalité historique. Donc comme on a laissé l'inflation aller trop loin, je donne souvent cette image, l'inflation c'est un peu comme le dentifrice. C'est-à-dire une fois qu'on a appuyé sur le tube de dentifrice, on ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube. Mmh. Là c'est pareil, on a laissé aller trop loin l'inflation, et donc maintenant on paye les conséquences au travers justement de cette récession malheureusement. Mais ne soyons pas optimistes, ça ira mieux à partir de la mi-2023. Il y a 6 à 9 mois un petit peu compliqués à traverser, et ça ira mieux par la suite.
Marc Toiti, l'auteur du livre Reset 2, vous êtes également le président de l'AC Défi. On se retrouve après une courte pause musicale.
Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer, mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors, je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est là le bonheur ? Il est là ? Il est là ? Il est là le bonheur ? Il est là ? Il est là ? J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque, j'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait, mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes, on fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y'a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est où ? Il est où le bonheur ? Il est où ? Il est là le bonheur, il est là. bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là.
Retour avec notre invité de ce matin, Marc Toiti, l'auteur du livre Reset 2 et le président de la CDFI. Alors, dans la première partie de l'émission, Marc Toiti, vous avez fait, on va dire, un tableau assez pessimiste de l'état de l'économie dans le monde et en France. Dites-moi, il y a quand même un peu d'espoir.
Oui, alors quand je dis attention, hein, pessimiste mais réaliste. Hein,
c'est-à-dire, ah, d'accord.
D'ailleurs, la fin du livre, je termine avec la conclusion, c'est soyons optimistes mais réalistes. Hein. Il faut être optimiste, bien entendu, c'est la nature de l'être humain, c'est ce qu'on doit l'être pour avancer, bien entendu, mais il faut aussi être réaliste. Donc, mon but, c'est pas du tout de noircir le tableau, on s'en fout, au contraire. D'ailleurs, je l'ai évoqué sur la fin de la première partie, c'est que ça va redémarrer, effectivement, ça ira mieux courant 2023, à partir du second semestre. Voilà, il y a juste quelques mois un petit peu délicat à traverser, mais ce que je dis toujours, c'est que les crises sont aussi toujours des phases d'opportunité. Ça veut dire que voilà, il faut pas avoir peur des crises, il faut simplement prévenir, voilà, pour à ce moment-là réagir en conséquence, que ce soit pour les entreprises, même pour les particuliers, ou encore soit pour les épargnants. Oui. Mais c'est vrai qu'on a encore une fois, quand on va très loin, quand il y a des dérapages, quand il y a des bulles financières, ben voilà, il faut payer la facture. Donc c'est ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Puis après, ça redémarre sur des bases plus saines. Mais c'est vrai que ceux qui ont été prudents, ben aujourd'hui, ils vont pouvoir, rafler la mise entre guillemets, parce qu'il y a on voit avec tout ce qui se passe sur les marchés financiers, là on a vu les crypto-monnaies dernièrement qui sont en train de s'effondrer, on se rend bien compte que là aussi c'était un peu n'importe quoi, c'est-à-dire que certaines personnes devenaient milliardaires en quelques trimestres, bon mais ça n'avait pas de sens. Donc là évidemment c'est en train de revenir vers une situation plus logique, avec là aussi une règle de base de la vie, j'ai envie de dire, qui est que plus le rendement augmente, plus le risque augmente. Ça veut dire que voilà, si je veux augmenter mon rendement, si je veux gagner de l'argent pour faire simple, ben, il faut prendre des risques. Voilà. Le danger qu'on avait, c'était que pendant cette crise, mais c'est pas la première fois, on avait l'impression qu'on pouvait augmenter le rendement sans aucun risque. Voilà. On me disait non, mais les crypto-monnaies, c'est formidable, c'est l'avenir, etc. Bon, il y a quand même des crypto-monnaies qui ont baissé ou même qui ont disparu. C'est-à-dire que c'est bien ça qu'il faut prendre conscience, c'est que c'est pas des baisses de 5-10%. On perd tout.
Alors, Marc Toiti,
il faut rester prudent encore une fois et réaliste.
Autre mot que vous avez l'habitude de dire dans vos conclusions, c'est qu'on sortira de cette crise aussi en innovant, avec l'innovation.
Complètement. Ça c'est la clé, c'est-à-dire que justement, j'arrête pas de le dire depuis des années, c'est vrai, mais ça marche, c'est-à-dire qu'on voit bien que si on prend le cas d'Israël, par exemple, s'il s'en sort, c'est parce que justement, il innove en permanence, il y a constamment un effort, c'est le pays dans le monde où il y a le plus de recherche-développement par rapport au PIB, si vous voulez, donc c'est ce qui fait qu'on a cette dynamique de croissance qui dure, alors, et donc... tous les pays, c'est un peu le même cas. Et donc, ça, c'est aussi la réponse au fameux réchauffement climatique, la transition écologique, énergétique, enfin, tout ce que vous voulez, tous ces mots un petit peu à la mode aujourd'hui. Où, en gros, ce qu'on nous dit, moi, ça me fait un peu peur, parce qu'on nous dit, voilà, il faut faire de la décroissance, il faut arrêter de croître, il faut arrêter de consommer, il faut arrêter de tout ça. Enfin bon, ça fait un peu peur, parce qu'à la guerre, nous, on peut se dire, nous, on est des pays riches, pourquoi pas, bon, éventuellement, mais les pays pauvres, qu'est-ce qu'on va leur dire? On leur dit, vous n'avez pas le droit de vous développer. C'est impossible. C'est pourquoi la COP27, encore, là, voilà, tous les numéros, là, ça n'a aucun sens. Ça ne fonctionne pas, tout ça. Et même pour nous, les pays développés, les pays riches, entre guillemets, s'il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'emploi. Et s'il n'y a pas d'emploi, il y a du chômage, donc il y a une baisse des revenus, donc il y a des crises sociales et sociétales. Donc ce n'est pas le but. On le sait, le seul moyen de faire de la croissance infinie dans un monde fini, c'est en optimisant l'existant au travers, justement, de l'innovation technologique. C'est-à-dire qu'on a le même monde, mais on va mieux l'utiliser. Justement, on va trouver des nouvelles sources de création de richesses, certainement plus écologiques, mais au travers justement de l'innovation. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en fermant le monde, en mettant des rigidités énormes, etc. Alors bien sûr, il y a une préoccupation écologique, faut sauver la planète, ça, je suis entièrement d'accord. Mais encore une fois, c'est pas en arrêtant de vivre, parce que c'est horrible. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on est en train de créer, ça a commencé en Chine par exemple, mais c'est en train d'arriver partout, des compteurs, entre guillemets, de votre vie, ce que vous consommez au quotidien, quelle est votre émission carbone, quelle est ci, quelle est là, enfin, c'est horrible, c'est 1984, c'est George Orwell. On est dans une dictature, alors on a eu la dictature sanitaire, on a la dictature écologique, puis après ça sera une dictature tout court, quoi, humanitaire. Non, ça c'est insupportable, et puis surtout, il faut bien prendre conscience que si on ferme effectivement, je dirais, ce développement, il y a des pays, par exemple aujourd'hui, le pays qui s'en sort le mieux dans le monde, c'est d'ailleurs pas la Chine, c'est l'Inde. L'Inde qui justement également est un pays qui innove énormément, qui investit énormément, et donc qui fait que demain ça sera une puissance peut-être égale, voire qui dépassera la Chine, parce que effectivement en Chine, il y a une dictature qui est dramatique, on le voit là, ils ferment encore régulièrement le pays, enfin, on se dit heureusement qu'on ne vit pas en Chine, quoi, parce que ça serait quand même dramatique, mais c'est sûr que moi il y a cette dérive un petit peu sectaire, disons le mot, qui me fait un peu peur, parce que je me dis c'est pas comme ça qu'on avance. On avance justement avec de la dynamique, avec de l'investissement, avec de l'innovation. Ça, c'est la clé. C'est l'une des clés, d'ailleurs, de mon livre, où justement, je dis qu'on a les moyens de s'en sortir. Mais si on est rétrograde, c'est-à-dire on retombe 50 ans en arrière, je vois encore une fois, je vois pas l'intérêt. Ou alors, encore une fois, il faut laisser les gens choisir. Le drame, c'est qu'aujourd'hui, on veut vous imposer les choses. Et puis, on vous culpabilise. Vous voyez, c'est ça qui est complètement fou. On nous dit, voilà, vous, alors les Français, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut prendre ça. Ça, c'est des préoccupations de bobos parisiens, entre guillemets. C'est-à-dire, on me dit, oui, il faut arrêter de prendre la voiture, il faut prendre les transports en commun. Bon, très bien. Alors déjà, quand ça marche, quand il n'y a pas de grève. Mais quand vous habitez en province, comment vous faites si vous n'avez pas de voiture? Oui, c'est encore une fois, on peut prendre le vélo, mais il y a des kilomètres et des kilomètres, c'est un peu fatigant. Oui, donc, il faut certainement, bien sûr, le faire. Pareil, quand on me dit, oui, c'est la France aujourd'hui, on se culpabilise, entre guillemets, alors que les pays qui consomment le plus de CO2 dans le monde, c'est quand même la Chine, encore une fois, les États-Unis, l'Inde et autres,
Marque-toi,
c'est pas la France.
Marc-toi, excusez-moi, mais parce que le temps file à une vitesse grand V. Juste une virgule, justement, on va parler d'un pays qui nous est cher, c'est Israël. Comment on se porte Israël? Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils partent en Israël à cause de l'inflation, où on dit qu'il y a beaucoup de gens qui reviennent parce qu'ils n'arrivent plus à mettre les deux bouts un après l'autre. Quelle est la situation économique en Israël?
Économiquement, Israël se porte très bien, mais justement, c'est le problème, notamment pour les Français qui veulent aller vivre en Israël, parce que effectivement, s'ils ont, par exemple, les retraités qui ont une retraite de France, avec l'appréciation du shekel, donc la baisse de l'euro, évidemment, leur pouvoir d'achat s'est complètement réduit. Donc, c'est ce qui fait que c'est particulièrement compliqué aujourd'hui. Et donc, là aussi, pourquoi le shekel a été cher? C'est parce qu'il y avait des flux d'investissement massifs avec des entreprises américaines qui achetaient des entreprises israéliennes, notamment avec la bulle du numérique. Alors, ce qui fait que c'est en train de se calmer. Donc, là aussi, le shekel va un petit peu repartir à la baisse, mais parallèlement, c'est vrai qu'on a un problème en Israël qui est la trop faible concurrence. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a encore une économie qui est très oligarchique. Ça veut dire que globalement, voilà, il y a quelques familles qui dirigent le pays, entre guillemets, dans certains secteurs d'activité. On partage le gâteau. Donc c'est vrai que les prix, entre guillemets, on a ce manque de concurrence qui fait qu'il y a des monopoles, des oligopoles où on peut maintenir les prix très élevés, même si globalement, les prix ont baissé. Donc c'est ça qui est assez incroyable. Et d'ailleurs, on peut se demander comment... C'est vrai que les Israéliens, ils sont quand même, de ce point de vue-là, très, très, très forts, entre guillemets, dans la mesure où ils digèrent ce manque de concurrence, entre guillemets, mais espérons que ça va changer. Ce qui est sûr, c'est que Israël a eu, c'est l'un des pays dans le monde qui a eu le plus de croissance, dans le monde développé, hein, bien sûr, ces 20 dernières années, donc ça c'est très bien, sauf que maintenant, il faut qu'ils répartissent cette croissance. C'est-à-dire qu'il y a un grand problème effectivement en Israël, c'est autant en France on est numéro 1 du monde des dépenses sociales, hein, c'est 32% du PIB, donc il n'y a pas mieux dans le monde entier, hein, la moyenne de l'OCDE c'est 20%, en Israël c'est 15%. Donc ça veut dire que maintenant qu'on a fait augmenter le gâteau en Israël, il faut mieux le répartir, il faut de la redistribution, il faut aider effectivement, ce qui permettra d'avoir une économie plus stable et également d'avoir un peu moins d'inflation. Et par contre, évidemment, pour les Français, c'est sûr que qui veulent venir en Israël, c'est compliqué parce qu'avec le niveau de l'euro qu'on a aujourd'hui par rapport au shekel, bien évidemment, ils ont perdu de facto un pouvoir d'achat très conséquent.
Marc Touati, merci beaucoup d'avoir été notre invité. On rappelle que vous êtes le président de l'ACDFI et que vous avez écrit Reset 2, qu'on peut retrouver, je crois, sur toutes les plateformes numériques pour l'acheter, pour le lire surtout.
Oui, partout, il est distribué dans toute la France, toutes les librairies, etc.
J'ai vu qu'il était le numéro 1 de la presse des livres économiques chez Amazon.
Ah, tout à fait, exactement, tout à fait, effectivement. D'ailleurs, merci à toutes et à tous pour votre fidélité, c'est vrai que ça fait toujours plaisir.
Merci beaucoup Marc Touati,
à très bientôt.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.